Cette semaine, dans le balado, on rêve d'un monde meilleur, on découvre l'horreur et on apprivoise notre nouvel environnement. Bienvenue à mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut, salut.
Alors écoute, cette semaine sort enfin un film qui était attendu depuis très longtemps par certains cinéphiles, vu que c'est une œuvre d'un cinéaste légendaire, mais qui a fait jaser beaucoup depuis sa projection à Cannes.
Ouais, je pense que ça va attirer beaucoup les curieux, ouais. Justement. Megalopolis, le grand projet. C'est fou parce que il y a quoi, 2 ans peut-être, on annonçait qu'il voulait faire le... Ben, ça fait longtemps qu'il en parlait, mais que là, ouais. Il allait se commettre, qu'il cherchait de l'argent. Et c'était comme, hey, on dirait une affaire que ça verra pas le jour, ouais. Tu sais. Puis finalement, il s'est présenté à Cannes, puis il est rendu dans nos cinémas, c'est ça, à peu près 2 ans et demi plus tard, là.
Donc, film qui divise, qui fait un peu polémique. Alors, on va jaser de tout ça avec grand plaisir. Alors, on a également une invitée spéciale dans le balado cette semaine.
Eh oui, spécialiste d'animation.
Donc, Annie Frenette sera avec nous pour jaser de Robots sauvages, ouais. Un film qui a été vraiment bien accueilli. Mais sans plus tarder, on va faire un petit mot de notre commanditaire.
Oui, encore une fois, la microbrasserie de l'île d'Orléans, qui a été fondée en 2006 et qui est située au cœur du village de Sainte-Famille sur l'île d'Orléans, donc à seulement 15 minutes de la ville de Québec. Vous y trouverez un pub moderne d'inspiration rustique nous rappelant l'histoire de l'île d'Orléans. La terrasse couverte avec vue sur le fleuve et la côte de Beaupré se veut une halte à découvrir. On peut y déguster d'ailleurs le généreux menu bistrot pour agrémenter notre plaisir. Mais la grande force, c'est quand même les bières qui se distinguent par leur saveur surprenante issue d'une eau de source incroyablement pure, des fruits produits localement et de l'humeur du vin. Elle vous offre un peu d'histoire parce que chaque anecdote ou chaque aventure qui est racontée, qui est inscrite sur les canettes, bien, elle est authentifiée. C'est pas juste le graphiste qui s'est amusé à inventer ça. C'est les vraies légendes de l'île. Bien, des vraies histoires, en fait, de l'île. La microbrasserie possède, par-dessus tout, le goût d'ici, ce qui sait plaire aux adeptes. Découvrez les différents points de vente dans toute la province en visitant le www.microorléans.com.
Excellent. Alors, on me chuchote à l'oreille une nouvelle de dernière minute, ah. ce qui est assez rare.
Dans vas-y, vas-y, cas, on tue la une.
Oui, tout à fait. Ben oui, tu sais, c'est le cas de le dire. En fait, on apprend le décès quand même d'une comédienne, Maggie Smith.
Ah ouais.
89, donc Minerva McDonagall.
Juste avant d'enregistrer comme
ouais,
ça.
Oui, c'est ça, c'est sorti sur les réseaux. Elle est décédée dans la nuit, donc
okay.
À Londres, paisiblement à l'hôpital, dans son sommeil, je pense, quand même.
Ouais, ben là, moi, j'ai rien noté, là, tu m'apprends tout ça, mais hein? Devais-tu être 90 ans?
89, ou... oui.
OK, ça. 89, fait que, ouais.
Quand même, donc, quand même une comédienne que je suis allé fouiller un peu. Je pense qu'elle était très bien appréciée, très... reconnue évidemment pour un immense talent, mais elle n'avait jamais joué dans un film culte ou un film à grand succès.
Mais Harry Potter.
Et toujours des rôles. Ouais, ben jusqu'à Harry Potter, okay, ouais, okay, c'est okay. Ça. Mais tu sais, dans les années 60-70, elle tournait beaucoup constamment, mais tu sais, jamais dans un film grandiose là, qu'on
se rappellerait. C'était pas une tête d'affiche.
Non, vraiment pas. Mais effectivement, elle a eu ce succès-là populaire. Vers la fin de sa carrière avec la franchise d'Harry Potter.
Ouais, étais-tu dans Downton Abbey aussi?
Oui, ou juste oui, dans... oui,
c'est ça. Je me souviens qu'il était dans un des films, mais je ne sais pas si je me souviens plus s'il était dans toute la série.
Oui, oui, effectivement. Donc, alors décide de Minerva McGonagall pour les amateurs de Harry Potter. Sinon, on avait parlé la semaine dernière du film Life of Chuck qui avait gagné le Grand Prix au TIFF de Toronto,
oui, là, oui,
l'adaptation
oui,
okay. De...
Tu peux me rappeler qui...
C'est Mike Flanagan
ah, oui,
qui a adapté cette nouvelle-là de Stephen King. Eh bien, finalement, on a un distributeur parce que au moment où on avait parlé la semaine dernière, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il en était. Et c'est quand même intéressant. Moi, c'est, je pense que c'est de bon augure. C'est Neon Pictures qui a acheté les droits.
Ah ouais, OK.
Donc, bon. Je pense que ça met déjà un petit peu le ton que le film doit avoir.
Uh-huh, c'est intéressant.
Et on parle d'une sortie pour l'été 2025, en
okay.
Quelque part. Là.
Fait que... bon, puis souvent, ici au Québec, Neon, ça passe par Elevation, puis Entracte Film, puis tout. Là. Fait que c'est pas un enjeu. On devrait voir ça sur nos écrans.
Ben, c'est ça. D'autant plus s'ils continuent à se distinguer un peu dans des différents festivals ou en tout cas dans des... liste de palmarès de fin d'année. Ça va être intéressant. Et bonne nouvelle pour les amateurs de Christopher Reeve. On sait que son documentaire a été super bien reçu, Superman de Christopher Reeve.
Ouais, on avait parlé de la bande-annonce il y a quelques
semaines. Ouais, c'est ça. Puis qui était diffusé, c'était seulement 2 jours, le 21 et 25 septembre. Le okay. 25 étant son anniversaire. ouais, qui partage avec un certain co-animateur de balado.
De balado populaire.
Mais je pense, vu la réception du public et tout ça, et critique, donc on a annoncé vraiment qu'on aura une sortie à la grandeur d'Amérique du Nord dès le 11 octobre.
Moi, ouais, qui est quand même une très grosse semaine. Là,
ouais. Il y aurait pu décaler
pas 10 films. Là,
fait que, ouais, ouais. Il y aurait pu décaler d'une semaine ou deux, peut-être.
Oui. On verra à quelle proportion il sera disponible sur les écrans, si nous-mêmes, on va être capable de le voir et d'en discuter, ou peut-être sera par après. Là.
Mais moi, c'est quelque chose que j'ai bien le goût de voir, que je sais qu'il va venir me bouleverser complètement.
Parce que ça, des fois, on parle des prédictions monétaire de box-office et tout, mais là, il y a des belles barres qui ont été atteintes, des plateaux qui ont été atteints cette semaine, à Babouiné, d'André Forcier, qui a fait 500 000 $ puis
OK, ça doit être encore pour lui,
je pense que oui, je pense que c'est vraiment son plus gros succès et tout, puis oui, encore aujourd'hui, là, il doit plus être sur autant d'écrans, mais je pense que, tu sais, les cinémas Beaubien et autres qui sont des...
spécialisés en cinéma québécois.
Ouais, c'est ça, qui sont des forts pour ça, ben ça aide. Puis c'est encore très populaire, même si ça fait quoi, 5 semaines, je pense, qu'il est sur écran, peut-être 4-5 semaines. Ah oui, même on approche fin octobre, en tout cas. Puis là, c'est confirmé. À un moment donné, je doutais de ça, mais le compte de Monte-Cristo a passé le million de dollars et il continue. Il fait encore des très bonnes
très
semaines.
Très bonne moyenne, ben oui, quand même.
C'est d'à peu près 100 000 par semaine, fait que... On peut se rendre au bout. 10 millions. Hey. Non, je penserais pas, mais là, c'est sûr que les prochaines semaines, comme on dit, il y a vraiment beaucoup de sorties. Fait que des films de 3 heures, des fois, c'est dur à garder longtemps à l'écran, là, dépendamment des cinémas, mais peut-être encore une partie de l'automne à l'affiche. Là, puis si ça vous convainc pas, dans le sens, c'est vraiment un excellent film à voir au cinéma qui va peut-être se retrouver dans nos tops de fin d'année à voir.
Alors, il est bien positionné pour l'instant, oui, à moins que d'autres choses. Ben, il reste encore quelques mois, bien sûr, mais.
C'est ça.
Ouais. Mais pour un film français, c'est quand même une très belle réussite. C'est ça qu'on en discutait la dernière semaine. T'sais, on se demandait quel est le dernier film français à avoir franchi le million
de guichets au Québec. Là. Ouais, puis, j'ai essayé de trouver l'information, puis c'est comme c'est dur à trouver hein. Mais je sais qu'il y a le premier Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, a été vraiment un gros succès.
Assurément Intouchable. Et c'était-tu avant? C'était avant Intouchable.
Hein? Intouchable était avant, ouais, ça devait être plus quoi, 2013.
Ouais, déjà, ouais, c'est vrai.
Mais oui, ça doit être dans ceux-là. Là. Ben, ouais. Il y en a peut-être un autre. Parce que même des Jacques Audiard, je pense pas qu'ils ont fait un million. Là, ouais. Un Prophète, puis De Rouillé d'Os et tout, je pense pas que ça a généré autant. Puis à la limite. J'allais dire celui avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo, mais techniquement, c'est un film américain que de Michel Hazanavicius, The Artist. Ouais. C'est ça. C'était une production américaine par des Français. Là, c'est pour ça que...
Moi, j'ai une dernière petite nouvelle. Avais-tu d'autres choses?
Non, vas-y. Okay.
On a annoncé le remake d'un... un film qui avait bien marché à l'époque. J'avais bien apprécié. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. The Hand That Rocks the Cradle. La main qui berce l'enfant.
Ben, le berceau.
Le berceau, ouais,
c'est-tu ça? Comme la madame qui voulait voler le bébé de l'autre?
Moi, ouais,
j'ai vu ça quand j'étais jeune. Mais c'était pas un téléfilm, même?
Non, c'était un vrai film. Oui, tout à fait.
Ouais. Bon, je pense qu'en français, c'était La main qui berce l'enfant. J'ai vu ça. C'est le genre de film que j'ai vu... J'ai vu sans l'avoir vu, là. T'sais, il devait jouer à télé, puis j'ai vu des bribes, puis j'ai l'impression que je l'ai vu, mais c'est qui était là-dedans, même?
C'était Rebecca De Mornay, qui était surtout connue pour Risky Business avec Tom Cruise au début des années 80, mais ça avait propulsé la carrière de Cruise, mais pas de Mornay, qui s'avait été plus tranquille. Fait que c'était comme un comeback, quand même. Ça avait pas loin, c'était 8-9 ans après Risky Business, en 92, le film, fait que... Mais non, ça avait quand même... je pense que ça avait fini dans le top 10 de l'année là, au box-office quand même. Fait qu'on fait un remake cette fois-ci quand même avec Michael Monroe, qui vient de connaître un bon succès avec Long Legs. Donc, il continue son aller dans les trailers. C'est vraiment le genre qu'elle affectionne.
Ouais. Puis ça et tout, oui.
Alors, ben, évidemment, pas de date de sortie et tout ça. Fait que le projet est vraiment juste dans ses balbutiements. Mais bien, on va voir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Oui, j'avoue que c'est un genre de film qui peut être intéressant à refaire parce que ça avait eu un certain succès, mais que ça a été oublié. C'est pas un film qui est iconique non plus. Fait que si on a vraiment une nouvelle idée intéressante, je suis en accord avec la proposition. Tu sais, si c'est juste le refaire pour le refaire, On verra bien quel genre de film ça va nous donner, là, quel cinéaste va être attaché au projet.
Oui, effectivement. Alors, bande-annonce, quand même deux grosses bandes-annonces que j'ai notées, à moins que tu en aies une troisième.
Je l'ai noté deux.
OK, fait que ça va être les mêmes.
Est-ce qu'il y en a une qui est au Québec, par exemple?
Ah non, moi non.
Ah, ben il y en a une au Québec, c'est Mademoiselle Bottine.
Ah ouais, j'avais, OK. Je l'ai pas noté parce que c'est une deuxième.
Bon, ben là, c'est la bande-annonce plus longue. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit plus, parce qu'au début, c'était un teaser d'une minute.
Ouais.
Fait que tu sais, on se doute un peu de l'histoire, là, on la connaît sans le connaître, là, un genre de refonte de Back et Bottine, tu sais, fait que la personne qui se retrouve avec la fillette puis que ça fit pas bien, mais que finalement tout le monde, ça va bien terminer, tout le monde ensemble et avec la moufette. Mais Marilyn Castonguay est dans au générique.
Okay.
On la voit dans la bande-annonce. Ouais. Ah ben, en plus de La Petite et le Vieux, fait qu'elle a vraiment un nouveau branding de moment dans dans ce genre de film-là. Mais il y a aussi, lui, je l'ai vu dans les noms, mais je ne l'ai pas remarqué dans mon annonce, mais Jean-François Provençal.
Oui.
Puis il y a aussi Mani Soleil Manlou qui jouait Coco dans C'est comme ça que je t'aime. Fait que là, avec, on a comme Huguette, Lucien, puis Coco. C'est là, fait que c'est comme, ben, tu sais, c'est tellement C'est comme ça que je t'aime, une production qui ramenait des artistes de grand talent et tout. Fait que c'est comme normal de les voir ensemble.
Ouais.
Mais j'aime beaucoup Jean-François Provençal.
Moi aussi,
j'aime curieux de voir quel genre de petit rôle on va lui donner là-dedans. Sinon, j'imagine, tu voulais plus... ça, c'est le 29 novembre que ça sort, Mademoiselle Bottine, qui va être une grosse sortie. Peut-être le film qui avait été reporté 2-3 fois déjà, Ballerina.
Ben, écoute, il est dans ma liste, mais là, je viens de réaliser que je ne l'ai pas écouté avant de
venir enregistrer. Oublié de l'écouter.
J'ai oublié de l'écouter. Ben, faut que je l'écoute. Fait que vas-y, décris-moi ce qu'on voit.
C'est une bande-annonce, mais tu sais, c'était déjà un peu annoncé. C'est Ana de Armas qui joue le rôle d'une assassin... qui va être mise dans l'équipe de ballet des Russes, là, qu'on voyait un peu surtout dans le John Wick 3, je pense.
Oui, c'est ça, ouais. Qui est comme la famille, la filière de John Wick.
Oui, c'est ça. Ben, je dis russe, mais je pense que c'est ça, ce sont des Biélorusses ou une affaire comme ça, là, une branche d'Europe de l'Est. Puis, fait qu'elle est comme recueillie par le personnage de Ian McShane, là, j'oublie son nom, là,
comment il s'appelle, le concierge,
lui c'est ça qui s'occupe de l'hôtel et tout, puis fait qu'il va comme la prendre orpheline, l'envoyer là-bas, puis je pense qu'elle va chercher à avoir vengeance et tout, puis on va voir des scènes de combat un peu à la John Wick, mais à sa sauce. Mais il y a quand même, on voit Lance Reddick, qui doit être littéralement son dernier rôle, parce qu'il avait filmé avant de mourir, il avait filmé ça, je me demande s'il avait même pas filmé avant John Wick 4.
C'est pas impossible.
Ou pratiquement en même temps, les deux films, là. Puis c'est juste que lui avait été reporté. Au début, il devait sortir ce juin. Il y a Norman Reedus qui joue là-dedans. Mais il y a Keanu Reeves lui-même qui fait une brève apparition. Mais je sais pas s'ils vont avoir comme des scènes de combat entre eux.
C'est ça,
ensemble, pas contre, là. On le voit qu'ils ont l'air d'être plus ensemble.
Ben, d'autant plus que le film se situe entre le John Wick 3 et 4.
Ah, OK, ouais.
Alors, fait que je sais pas si on va... On verrait comme une scène du 3, mais du point de vue de elle, peut-être. Puis je sais pas comment
peut-être,
intégrer ça. Moi, je m'attends pas à ce qu'il soit longtemps, là. Peut-être 2-3 minutes.
Je pense que oui, juste le temps d'une rencontre. Puis là, elle dit j'aimerais ça avoir tes trucs pour devenir le Baba Yaga. Puis il dit genre, bah, t'as l'air bien parti. C'est pas mal, ça. C'est Len Wiseman qui réalise, qui est un réalisateur d'action que je peux pas dire que c'est des chefs-d'œuvre, mais je pense que séquences d'action est capable de bien les mener. Il avait fait une couple des Underworld, le Die Hard 4, qui est lui qui a quand même... Jump the Shark, là, qui est quand il est sur des ailes de F1, pas de F1, de F18, là.
Mm-hmm.
Et puis que toutes les bretelles d'autoroute explosent et tout. Fait que ça, c'est intense. Le remake de Total Recall aussi. Ouais. Fait que si on a un scénario, tu sais, qui n'a pas besoin de changer le monde, là, c'est un spin-off de la série John Wick. On veut juste quelque chose de pas trop débile, puis qui met en valeur l'action puis le talent des comédiens et comédiennes.
Ben, je pense qu'Ana de Armas, c'est un très bon choix, parce qu'elle avait fait une entrée très remarquable dans...
No
Time to Die, c'est ça. Donc, j'ai bien hâte de l'avoir en action. Puis, ce qui est curieux, c'est que le scénario ne devait pas à la base servir dans l'univers de John Wick.
OK, c'était vraiment un film une histoire
originale. Ouais, c'est vraiment un spec script qu'on appelle, donc un scénario qui est soumis par des agences au studio. Et quand Lionsgate ont vu ça... ils ont vraiment adoré, ils l'ont acheté, puis ils ont décidé d'intégrer l'univers, en fait, qu'on retrouve des danseuses et tout ça de cette famille-là d'assassins à John Wick même. Fait qu'ils ont modifié le scénario de John Wick 3 pour incorporer les éléments de ballerina au film. Puis le scénariste donc a travaillé sur les scénarios de John Wick 3 et 4 après. Fait que pour la petite histoire quand même.
Ah, c'est ça.
Ouais.
Fait que ça explique un peu, c'est ça, mon hypothèse qui a peut-être été tournée avant le 4 même ou à peu près en même temps ou une partie peut-être. C'est ça.
Ben moi, la deuxième que j'avais notée, c'est quand même le nouveau Marvel, Thunderbolts.
Oui, et puis juste pour dire Ballerina, c'est au mois de juin.
Oui.
Ben oui, t'as raison, Thunderbolts, j'y ai pas pensé parce qu'elle est sortie comme samedi.
En début de semaine, ouais, c'est ça. Ouais, comme arrivé un peu nowhere comme ça. D'habitude, il rattache ça avec une grosse sortie cinéma, puis fait que j'étais curieux. Mais je pense qu'il y avait comme une version bootleg là, qui circulait sur Internet depuis quelques semaines, qui avait été filmée là, au Comic-Con de San Diego, puis mise en ligne. Fait que Marvel, on prend décidé, OK, on va le laisser.
Ben, de toute façon, tu sais, leur prochain, c'est comme en février.
Il
faut juste que tu le sortes.
Ouais. Ben, tu sais, moi, je m'attendais à le voir assurément... probablement fin novembre, là, peut-être avec Moana ou quelque chose comme ça. Donc, Thunderbolts, 36e film déjà de l'univers MCU. Et qu'est-ce que ça parle, Thunderbolts? Ben, c'est une équipe un peu à l'image de Suicide Squad, là, de
des
DC.
Des Misfits, comme on
ouais,
dit.
Ouais, c'est ça. Donc, des
par rapport.
Ouais, c'est ça. Des espèces de... des méchants un peu, mais type des méchants aux gentils cœurs, là, qui sont pas trop méchants
ouais,
dans le fond.
Ils sont souvent un peu des
des incompris.
J'essaie de trouver l'expression en français, mais tu sais, des gun to hire. Là,
ouais, des mercenaires.
Ouais, c'est ça. Ils sont pas mal tous des loups solitaires et des louves. Solitaires.
Ouais, donc ils vont être réunis ensemble pour une mission. Alors, on va retrouver entre autres, évidemment, le personnage de Yelena Belova de. Joué par Florence Pugh, qu'on avait vu dans Black Widow, également David Harbour et son Red Guardian, Sebastian Stan et son Bucky, et Wyatt Russell qui joue le US Agent. Donc,
ouais, Wyatt Russell, lui, c'était vraiment dans la série.
Dans la série Falcon et Winter Soldier. Fait que je pense que c'est beaucoup lié à l'univers des séries, justement. Mais ça a l'air assez efficace, mais on n'est pas dans l'univers cosmique Marvel. Je pense qu'on revient... je pense que ça va être comme une bonne suite. Ouais, je pense que ça va être une bonne suite à Brave New World, justement, le film de février, là, le 4e
ouais,
Captain America.
Oui, on est très dans les complots militaires,
ouais,
puis la politique.
Puis,
la
petite politique aérée, puis ça. Fait que j'ai bien hâte de voir. Jusqu'à date,
ça
a l'air assez
juin,
sympathique.
Ça se peut-tu aussi?
Ça, c'est au mois de mai.
Mai, OK.
Ouais, fait qu'on revient là, à la
tradition.
Ah, il va
être au Comic Book Day.
Ouais, le Free Comic. Premier vendredi du mois de mai.
OK. Donc, qui lance la saison du blockbuster
sous même coup. Parce que c'est une grosse saison. Parce qu'à l'été, c'est Fantastic Four, me semble.
Ah oui, en juillet.
Ouais, en juillet.
Comme la Deadpool.
Ouais. Alors voilà pour les bandes d'annonces. Puis, plongeons. Dans les films de la semaine, est-ce qu'on y va avec le Mégalopolis de Francis Ford Coppola?
Oui, commençons avec Mégalopolis. Quoi dire?
Oui. C'est quand même dur à résumer aussi.
J'ai aussi oublié de faire mes devoirs sur Francis Ford Coppola. C'est quoi son 15e film peut-être? Ou il n'a plus temps que ça?
Ouais, quand même. Il tournait à un rythme assez régulier dans les années 70
et 80. Mais là, ça fait un studio Dracula le dernier qu'il a fait?
Non, c'est de mémoire, je pense que c'est de Rainmaker en 96 avec Matt Damon.
Dracula, c'était 92.
92, ouais. Fait que je suis pas sûr s'il y en a fait un au tournant des années 2000. Là,
mais... Ouais, fait que j'ai pas trop fait mes devoirs là-dessus.
J'avoue,
bon, fait que ça
moi
fait
non plus.
Une vingtaine, trentaine d'années peut-être. Y a une grande panoplie de comédiens là-dedans, notamment Adam Driver, Nathalie Emmanuel, qu'on connaît surtout des Rapides et Dangereux, mais qui de plus en plus joue dans différents films. Giancarlo Esposito, John Voight, Shia LaBeouf, qui est de retour, Aubrey Plaza, Lawrence Fishburne. On est dans New Rome, qui est clairement un genre de New York. Puis on va suivre un peu la genre de guerre politique et civile, d'un peu d'une certaine manière, qui va avoir entre le maire actuel, qui est joué par Esposito, qui est plus sur le conservatisme, puis on change pas les choses, puis oui, il y a un clivage entre les riches puis les pauvres, mais c'est de même que ça fonctionne. Puis le personnage d'Adam Driver, qui s'appelle César, qui lui est un architecte comme utopiste et qui avec des idées révolutionnaires, qui a inventé un nouveau métal, une nouvelle matière finalement, qui voudrait construire une nouvelle ville avec ça, en disant ben, « si on construit et qu'on améliore la ville, ça va comme régler tous les problèmes. » Puis au travers de ça, va venir la grogne populaire. puis des relations amoureuses et des secrets sur les, ouais, des complots pour arriver à leur fin. Il y a un riche banquier joué par John Voight, fait que tout le monde qui veut profiter de lui, etc. Fait que c'est très... on se dit ça, manichéen, qu'on dit? Je sais oui, plus si ouais. c'est la bonne expression. Ouais. Très tragédie grecque, tout ça autour. Et le film ne s'en cache pas, ça commence Megalopolis... a fable, tu sais, une fable, une... comment on dit ça en anglais? Ben on peut dire, en français, on dit fable, mais on dit aussi une...
Un conte.
Un conte, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a des affaires plus grandes que nature, oui, puis oui. d'une façon un peu... comme didactique, là, un peu de... C'est pas des dialogues qu'on dit dans la vie de tous les jours, là.
Ça fait... OK, c'est pas filmé comme une pièce de théâtre, mais les dialogues vont très théâtral, je trouve.
Oui, exactement. Ah, ouais. La phrase parfaite avec les mots parfaits tout le temps, là, un peu.
Et fait... toutes sortes de concepts aussi philosophiques qui sont lancés, que personne, justement, parle de cette manière-là, là, mais là, avec tout ce côté-là très ouais, littéraire. Là.
Parce qu'en plus, le personnage de Driver a la capacité d'arrêter le temps. C'est pas quelque chose qu'il fait souvent pour arriver à ses fins, mais on comprend que c'est comme cette notion pour les artistes de la vision du monde qui est différente de la plupart des gens, etc.
Ils obéissent à différentes règles
voilà.
que le simple citoyen.
Mais là, il y a des... Je sais pas comment en parler parce qu'on fait pas des critiques comme telles ici, fait que je veux pas...
Ben, c'est un film qui avait jasé beaucoup parce que c'est quand même assez audacieux. C'est un film qui respecte pas les règles d'un film commercial traditionnel. Là, faut se dire, c'est quand même une œuvre expérimentale en quelque
oui,
part.
Exactement.
Qui a coûté très cher parce qu'on sait que Coppola l'a financé lui-même ouais. parce que personne à Hollywood voulait faire son film. Ils ont vendu son vignoble pour une grosse somme, 500 millions, qui a réinvesti une partie, donc 120
ouais,
millions dans son film.
Il n'a pas tout mis là-dedans, mais c'est lui qui a financé 100% du
ouais.
film, mais il n'a pas mis tout son argent.
Non.
Puis le monde, il disait, mais là, mets pas ton argent là-dedans. Puis il était comme, hey, je ferais bien ce que je veux, mes enfants sont corrects. Puis...
Fait que c'est comme un film testament. C'est un projet qui travaillait depuis une quarantaine d'années. Donc, et pour ceux qui connaissent bien le cinéma de Coppola, on sait que c'est quelqu'un qui a la folie des grandeurs. Il avait vécu ça avec Apocalypse Now, un tournage qui a été tiré pendant 5 ans, avec toutes sortes de situations loufoques qui se sont produites pendant le tournage lui-même. Dans les années 80, il avait financé une comédie musicale, One from the Heart, qui était un échec lamentable. À cause de ça, il a dû faire le Parrain 3 pour redonner l'argent
ouais,
au studio, okay. tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il est allé un peu vers des films plus commerciaux là, à cette période-là, Jack, puis justement The Rainmaker.
Ah, on oublie que c'est lui qui a fait Jack. Là.
Ben, c'est ça. Fait que c'était vraiment pour payer ses dettes envers les studios. Donc, ça sent. Fait qu'il s'est fait de plaisir, mais c'est un film hors norme. Fait à voir si vous êtes curieux. Ouais. Malheureusement, on va être honnête, c'est pas un chef-d'œuvre. Il termine pas avec un film qui est digne de son legs, je pense.
Ouais, c'est ça. Un peu contrairement à Ridley Scott, qui continue à faire des gros films un peu à la hauteur de
Ben, il est constant avec qui
fait.
Il est.
Ouais, c'est ça. Napoléon, Gladiator ouais. 2 qui s'en vient, des choses comme ouais. ça.
Ou même Martin Scorsese qui a fait quand même de très bons films
oui,
dans les dernières années.
Ouais.
Fait que malgré lui aussi son bagage incroyable, malheureusement, c'est pas le cas pour Coppola. On aurait
mais
aimé
ça. Mais c'est plus audacieux, c'est sûr.
Effectivement,
ça,
c'est ça.
Il y a fait quelque chose un peu des... Ah, merde, celui qui avait fait Brazil. Puis,
oui, Terry Gilliam. Oui, une
ouais,
folie dans sa
mais
mise en scène.
Mais de ce hors norme-là,
ouais,
un
ouais.
peu dans...
Oui, avec Brazil, ça peut être une bonne comparaison, même dans l'esthétisme aussi. Là, c'est assez... Dans l'architecture, la direction artistique, c'est tout.
Ouais.
Il y a beaucoup d'emphase.
La force est là-dedans, oui, c'est ouais. ça. La direction photo, direction artistique, les costumes, les affaires comme ça, c'est vraiment cool, mais c'est assez aride quand
ouais.
même à écouter, justement, à ce niveau-là.
C'est pas pour tout le monde, fait qu'on vous l'avertit d'avance.
Mais je trouve que le buzz autour du film, le fait que tout le monde en parle de si tu un échec, si tu la meilleure chose au monde, tu sais, sur Letterboxd, je vois des peu d'étoiles, mais il y en a d'autres qui c'est comme
oui,
c'est différent, j'embarque à 100%, vous comprenez pas, fait que juste tout cet engouement-là, fait que je trouve que ça vaut la peine d'aller le voir pour se faire sa propre opinion, finalement.
Oui, oui, puis c'est un ovni, tant par son propos, le film lui-même, et toute justement cette situation dans la culture pop, là, où il se situe à cause de Coppola et tout ça. Fait que c'est sûr
ouais.
qu'on verra pas ce genre d'événement-là dans le monde du cinéma encore, là, parce que justement les autres, comme les autres réalisateurs, Spielberg, Scorsese, tout ça, continuent à faire ce qu'ils font, puis ils le font très bien.
Ouais, Cameron. Puis,
ouais, ça fait qu'à moins qu'un d'eux autres arrive avec un projet complètement éclaté, qui est hors norme pour eux, là. Fait que à voir, comme je dis, si vous aimez, je pense, les choses différentes un peu, vous voulez être dérouté. C'est une expérience en soi, faut le dire.
Spielberg sont plus éclatés, c'était comme d'arriver avec The Fableman peut-être, qui était juste hey, je vais quitter les aventures, puis ouais, je vais vraiment vous parler de moi, puis telle affaire, puis c'était comme super bon, puis ouais.
Ben, je pense dans sa filmographie, c'est Schindler's List, je pense, qui est comme son plus,
c'est vrai aussi qu'il est plus beaucoup plus tragique et,
ouais, qui est un film historique traité sérieusement, on est très très loin,
mais
des,
par après il a
fantaisiste.
Fait des Bridge of Spy puis d'autres affaires, oui, un peu historiques aussi, là, tu sais, Soldat de Ryan, puis
oui, ouais, mais qui demeurait quand même dans le,
dans l'aventure un peu.
Ouais, ben dans le feel good quand même, tu sais, ça se termine bien, t'as...
Ouais.
C'est ça, qui était quand même assez commercial.
Ça fait longtemps que j'ai vu Schindler List. Faudrait que je réécoute ça.
Mais ça aussi, t'avais quand même en quelque part un happy end, entre guillemets. Là. Tu sors là, puis bon, au moins t'as une finalité. Mais bref, Megalopolis, vraiment un ovni déroutant, puis qui s'inspire justement, tu l'as mentionné, où tout. On est beaucoup dans la légende ou dans c'est ça, côté romain, là, dans tout, dans les noms, dans,
oui,
dans
oui,
les costumes et tout ça. Fait qu'on s'en cache pas, l'influence
dans les trahisons,
est là. Ouais.
Dans les alliances.
Et tout, en fait, tout, l'histoire de Megalopolis, de la misère à dire, est vraiment une transposition de la chute de Rome, des deux familles qui se battaient justement, les Cicéron et les Catelin. Donc, okay, il a vraiment juste retransposé tout ça. Il était vraiment fasciné par...
OK, puis c'est vraiment leur nom de famille,
ouais,
là-dedans.
C'est des vrais noms, ouais, de personnages... De l'histoire romaine, ouais, là, et tout ça. Fait que, il était obsédé par cette histoire-là pendant 40 ans. Il y avait comme 400 pages de documents, de notes. Puis écoute, c'est pas la première fois qu'il voulait le tourner. En terminant, j'avais noté quand même. La première fois, donc c'est en 83 qu'il a commencé à travailler dessus. En 1989, il avait annoncé qu'il était pour le tourner. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Il a décidé de faire le Parrain 3 pour payer des dettes. Il a repris ça en 2001. Avec quand même il avait amassé plusieurs comédiens de renom là, pour faire des lectures, tout ça là, autour d'une table, là, des premières lectures de scénario. Donc, tu avais Jude Law, Leonardo DiCaprio,
les gros
Paul
noms,
Newman, ouais, des gros noms, Al Pacino et tout ça. Mais le projet a été mis sur glace à cause des attentats du 11 septembre, okay, parce que là, évidemment, ça frappait le cœur de New York,
ouais, là,
qui
tournait
là en partie. C'est sûr que le projet a changé, a évolué au cours des différentes incarnations. Fait que là, je pense qu'on est peut-être, on s'éloignait un peu peut-être plus de l'élément fantastique visuel, puis peut-être plus dans un New York réaliste. Je ne sais pas où il en était, là, visuellement, mais fait que ça a mis le projet sur glace pendant plusieurs années à cause de cet événement-là.
Bon, je ne sais pas où on allait. On pourrait aller d'un projet de cœur à un autre projet de cœur, si tu veux.
Ben, d'accord. Penses-tu au même? Là?
Je ne sais pas. Moi, je pense que dans Megalopolis, on voit une fraction de seconde d'image d'archives de Hitler. Ça m'inspire.
Ben, allons-y.
Ce projet de cœur-là.
Avec Lee de Ellen Kuras.
Oui, un film britannique, dans le fond, qui met en vedette Kate Winslet, et on en reparlera un peu. C'est elle qui a travaillé beaucoup sur ce projet-là depuis plusieurs années. Et aussi plein d'autres comédiens et comédiennes connus, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Alexander Skarsgård, Josh O'Connor, Noémie Merlan et Andy Samberg.
Ouais, dans un contre-emploi.
Ouais,
un peu.
Je pense que c'est pas mal son premier rôle dramatique.
Je pense que oui.
Lui qui est dans Brooklyn Nine-Nine puis Saturday Night Live, toutes ces choses-là.
Et Lonely Island.
Oui, exactement. Voilà. Fait qu'il n'y a pas de Dick in a Box dans ce film-là. Non. Pas du tout. Qui est, c'est dans le fond le film biographique sur Lee Miller, qui était une photojournaliste, dans le fond une photographe en fait, pas journaliste, qui est allée à la Deuxième Guerre mondiale prendre des photos sous le couvert de Vogue magazine en fait. Et le film, la manière qu'il est construit, c'est qu'il y a un journaliste qui est venu chez elle pour l'interviewer. Fait qu'elle va raconter un peu au fil des photos ses souvenirs de ces événements-là. Un truc très drôle quand même, c'est le journaliste est joué par Josh O'Connor, qui était dans Challenger, et sa co-vedette, pas Zendaya, mais Mike Feist, l'autre gars, jouait exactement le même genre de rôle, le journaliste qui interviewe la femme des années plus tard dans The Bike Riders.
Ah, ben oui.
Fait que les deux co-stars du film de tennis ont eu un autre rôle pareil, mais dans deux films différents. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est un film à budget quand même limité, là. Mm-hmm. On sent que c'est pas, justement, on parlait de la liste de Schindler puis de Soldat Ryan, là. On n'est pas dans ces budgets-là. Puis ce qui va être très fort, c'est certains moments, dont quand les premières photos de camps...
Camp
de concentration, des wagons de train avec des piles de cadavres. Le film se situe beaucoup en France. C'est beaucoup là qu'elle était, là, suite aux invasions françaises. Fait que à point que je suis mêlé, mais ils vont pas comme en Pologne, puis c'est beaucoup dans le territoire français. Hein.
Non, mais dans les camps, c'était en Allemagne puis en Pologne.
OK, je pensais que c'était les trains qui revenaient en France. OK, j'ai dérouté à un certain moment. Je te passe.
Ouais, ben en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que Lee Miller, donc la journaliste, c'est elle qui avait servi d'inspiration au personnage, au nom du personnage de Kirsten Dunst dans Civil War,
oui,
qui était
sorti
au printemps. Parce qu'on parle de ce personnage-là, de Lee Miller, donc une photographe de guerre réputée. Donc, écoute, moi, c'est un film que j'ai trouvé comme en deux temps, et la deuxième partie est vraiment beaucoup plus intéressante, puis même fascinante à voir, ne serait-ce que par son métier qui n'était pas courant à l'époque. Donc, c'est une femme avant-gardiste avant son temps, mm-hmm. Qui était mannequin pendant longtemps, puis avec l'arrivée de la guerre, s'est reconvertie justement en photographe. Très bien joué par Kate Winslet, là. On sent qu'elle a mis tout son amour pour porter à l'écran ce film-là. Donc, un autre pan, comme je m'intéresse beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un pan d'histoire que je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça intéressant de découvrir ce personnage-là. Comme je disais, on sent l'effet petit budget, mais ça passe bien.
Mais qu'ils ont moins qu'il est maximisé.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Tu sens pas qu'ils ont manqué d'argent pour faire ce qu'ils voulaient faire. C'est juste qu'il n'y a pas, à un moment donné, 360 figurants. Elle n'est pas sur les scènes de bataille.
Non, c'est ça. L'angle est vraiment mis sur l'après-guerre, comme l'effet dévastatrice de cette guerre-là, puis les villages en ruine, puis les gens pauvres et dans la misère et tout ça. Fait que oui, peut-être les comédiennes françaises sont allées chercher des gros noms, mais qui sont quand même sous-utilisés. Là, on s'entend
oui,
ici,
oui, c'est
là.
Ça, exact. Je pense que bien vendre le film à l'international.
Probablement, effectivement. Mmh. Comme tu sais, Kate Winslet est une des productrices aussi du film.
Ouais, ça faisait quoi, 9-10 ans qu'elle travaillait sur le film, l'adaptation?
Depuis 2015 que j'ai lu. Ben, en fait, c'est la scénariste et réalisatrice Hélène Kurras, qui était directrice de photo, en fait, qui avait travaillé sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est là qu'elle avait rencontré Kate Winslet. Et à un moment donné, dans une boutique à New York, elle tombe sur le livre de photographe de Lee Miller.
OK.
Et elle trouve qu'elle ressemble beaucoup à Kate Winslet, qui est vrai d'ailleurs. Et elle a envoyé le livre à Kate Winslet, et Winslet est tombée en amour avec elle, ce personnage-là. Donc, c'est elle qui a approché finalement Hélène Kurras pour qu'elle vienne réaliser le film une fois.
Oui, c'est ça, parce qu'elle a fait la direction photo sur plein de séries de films, de courts-métrages et tout. Mais c'est la première réalisation. C'est vraiment le fun, ça.
Puis effectivement, donc, on disait Adam Sandberg, qui est dans un petit rôle de soutien, mais qui joue un autre photographe, mais dans un rôle sérieux, là.
Ouais.
Puis se tire très bien d'affaires et tout ça. Fait que moi, c'est peut-être un film. Il n'y a peut-être pas le côté un peu suspense de La Promesse d'Irina, ni peut-être le côté émotionnel de le film avec Anthony Hopkins. C'est-tu One qui était sorti?
One Life.
Ouais. Mais on est dans ces eaux-là quand même. Fait que si vous avez précisé, je pense que ces deux films-là, je pense que Lee est quelque chose d'intéressant à voir. Puis écoute, vous pouvez aller voir sur Internet, là, on voit plein de ses photos. Parce que, évidemment, une des photos iconiques de Lee Miller, c'est qu'elle a pris un bain dans la baignoire d'Adolf Hitler dans son appartement.
Avec le portrait à côté.
Ouais, c'est ça. Donc, et la photo est identique, elle a été vraiment bien recréée. Fait qu'il y a toutes sortes de photos qu'on la voit prendre dans le film, que c'est intéressant de comparer, là, d'aller voir ça sur le net. Et moi, j'ai comme un petit. Je ne sais pas si tu étais comme moi un peu au début, parce que, quand même, un élément de nudité un peu gratuite au début.
Oui, c'est
quand,
ça.
Quand ils
parce
sont
qu'ils sont comment,
campagne.
On est très artistes et
blablabla. Ouais, c'est ça, de ce côté-là, très débonnaire et tout ça. Fait que j'étais comme, mais finalement, elle a pris des photos de leur dîner d'amis et tout ça. Là. C'est là qu'on contrôle, entre autres, Noémie Merlin et tout ça. Fait que ouais, fait que je pense que c'était... C'est une gang qui était très libérée.
Ben là, les photos avec... tu sais, il n'y a pas de nudité, mais tu sais, juste genre les langoustines, puis apprennent des verdures, puis ils font comme si c'était leur poil d'aisselle, puis des choses comme ça.
Ah non, tu vois les seins nus.
Mais je veux dire, ce côté-là, il n'y a pas de nudité dans celui que je parle, mais je veux dire, c'est aussi comme ça a dû commencer en genre « Hey, j'aime la photo, je commence à faire de la photo. »
Ouais, c'est
début de passer de mannequin à photographe, ouais. De devant, derrière la caméra, tu commences par expérimenter puis créer.
Ouais, puis elle semble être libérée sexuellement, elle semble avoir eu beaucoup d'amants. Puis de,
oui, c'est ça. Il en parle un peu au début du film.
C'est ça. Comme on dit, c'était une fille qui était très déniaisée pour l'époque. Donc, Lee, quand même...
Ouais, mais ça prend un méchant gars parce que c'est elle. Tu sais, elle n'a pas été déportée, là. C'est elle qui voulait prendre des photos et tout. Et, parce que tu vois qu'elle avait une carrière internationale, c'est pour ça qu'elle avait des amis en France, qu'elle revient après, elle travaille à Londres, mais dans le fond, elle est américaine, fait qu'elle se fait envoyer par les États-Unis, puis etc., pour vraiment couvrir l'événement, mais elle voit des horreurs.
Ah, elle avait du gâteau, oui, effectivement.
Ben, écoute, on peut parler un peu de Amal.
Oui,
puis après, on accueillera Annie pour parler de Robots Sauvages.
Ben oui.
Fait qu'Amal a un esprit libre de Jawad Ralib. Avec, c'est un film belge, fait que c'est pas des noms et des faces qu'on connaît, mais on prend la peine de nommer Lubna Azabal, qui joue le rôle d'Amal, donc la comédienne principale, qui joue une enseignante dans un lycée, une école secondaire multiculturelle à Bruxelles. Puis elle encourage ses élèves, qui sont quand même pour la plupart musulmans, à penser autrement, donc notamment en leur montrant des œuvres écrites par de la poésie, écrites par des musulmans avoués homosexuels. Tout ça parce qu'elle veut aider une fille de sa classe qui est vraiment victime d'intimidation, d'agression physique parce que les gens la traitent de lesbienne. Puis le but du film, c'est même pas de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est plus, elle veut juste éveiller votre conscience à...
Éliminer les préjugés.
Ouais, éliminer les préjugés, puis laisser les gens vivre, ouais. etc.
Parce qu'elle-même est arabe aussi, il faut le souligner.
C'est ça, exact. Alors que dès qu'on sort de l'école, ben là, il y a des milieux beaucoup plus conservateurs, plus intenses dans, disons, je vais pas mettre des mauvais mots, là, mais dans l'utilisation du Coran, puis on tombe plus dans les femmes voilées, puis les droits des hommes versus les femmes, qui est pas les mêmes, puis etc. Fait que cette peur-là de la montée religieuse, on la sent là-dedans. Fait qu'est-ce que cette idée de montrer cette pédagogie-là complètement différente va aider ou mettre de l'huile sur le feu? Ben, c'est un peu le concept du film, finalement. C'est un film qui a été présenté, d'ailleurs, au Festival de cinéma de la Ville de Québec il y a 2 semaines.
Oui, je pense qu'il a gagné un prix.
Je pense que j'ai oublié de noter aussi.
Ouais. On s'en excuse donc, mais c'est pleinement mérité. Honnêtement, c'est un sujet qui... Encore là, qui me fascine beaucoup, qui m'intéresse. Quand j'ai vu la bande-annonce et que j'avais vu le sujet, là, je trouvais que j'avais hâte de voir le film. Et j'ai vraiment embarqué à 100 000 à l'heure. La réalisation est vraiment efficace, très dynamique, dialogue très naturel. Je ne sais pas si les comédiens, les jeunes ont déjà travaillé un peu ou si c'est leur premier film et tout ça, mais ils sont vraiment efficaces, on croit à leur jeu, puis je pense que c'est un film qui amène un sujet qui peut permettre un débat super intéressant. Moi, j'ai genre être prof au secondaire, c'est sûr que je montrerais ça à mes élèves.
Ouais.
Je trouve que ça amène de belles discussions. Et d'ailleurs, le projet est né comme ça parce que le réalisateur a fait un peu de fiction, mais beaucoup de documentaires aussi. Et puis, il avait sorti un film qui s'appelle « Au temps où les Arabes dansaient » en 2018. Sur la culture et tout ça. Puis il y avait eu beaucoup de projections dans des écoles secondaires et beaucoup d'élèves musulmans réagissaient négativement au film, à tout ce qui mettait en valeur la danse, la lecture, la musique, tout ça, qui est interdit selon le niveau de croyance de certaines communautés ou de chacun. Donc, ça avait vraiment saisi et choqué un peu leurs attentes. Donc, il a décidé de plonger justement... dans cette thématique-là, là, jusqu'à quel point l'influence extérieure de la communauté peut agir sur le niveau scolaire et tout ça.
Ouais,
parce qu'il est quand même aussi intéressant, il faut souligner, en Belgique, c'est ça, en fait, que je ne sais pas pour les autres États européens, mais en Belgique, ceux qui donnent les cours de religion sont nommés par un organisme religieux et finalement, la commission scolaire ou le directeur n'ont aucun droit de regard, rien à dire, même sur ce qu'il enseigne.
C'est ça, elle explique. Dans le film, il y a un moment, c'est ça, la directrice explique que je ne peux même pas rentrer dans sa classe.
C'est
ça. J'ai même pas le droit.
Fait que c'est assez incroyable quand même. Donc, fait que vous aimez les films qui
amènent... débats sociaux.
Ouais, c'est ça, tout à fait, oui.
Puis moi,
bien construit, ouais.
Ça m'a vraiment frustré, fâché, ce film-là.
C'est questionnant,
positivement, là, c'est ça, là, l'intolérance, ça vient vraiment me chercher beaucoup. Là. Je suis comme... Tu peux juste laisser le monde faire leurs affaires. Là,
ça serait tellement plus simple.
Tout n'est pas un gâteau. Là. Ce qui gagne, tu ne le perds pas nécessairement. Là, si la personne est homosexuelle à son bord, est OK. Là, c'est tout. Ça ne change rien à toi. Là.
Ah non, non, c'est ça. C'est un film qui est très, très de son temps, il faut le dire. Et puis, d'ailleurs, c'est inspiré aussi, je t'en parlais en sortant du film, où en France, écoute, les professeurs surveillent vraiment ce qu'ils font parce que, bon, évidemment, c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais quand même de grandes communautés arabes et musulmanes là, en France, en Belgique et tout ça. Puis évidemment, ça crée des tensions. Là, c'est pas inventé. Il y a un professeur qui avait montré des caricatures de Mahomet et qui a été décapité par la suite. Là, fait que
ouais.
C'est rough. Là, fait que donc, on comprend que le monde de l'éducation savent pas marche sur des œufs. Là, fait que c'est tout un débat que nous, on n'a pas encore ici, mais là-bas qui est très présent.
Ouais, puis qu'il l'a des fois dans le film, il l'aborde justement
ouais,
à un moment donné, genre j'ai la liberté d'enseigner, puis les autres qui disent ouais, mais tu sais, lève un peu le pied du gaz, s'il
jusqu'où
te plaît.
On va, puis, ouais, fait que ouais, donc film de très
mais
grande qualité.
Ici, je pense qu'on va le voir au Québec, c'est un petit peu plus protégé peut-être, là, mais la religion catholique aussi, là, dans l'Ouest américain et tout, ils font leur part. Là. Il y a des reculs. Là. Il y a des endroits, des fois, qui n'arrêtent pas d'annoncer qu'ils enlèvent les cours de maths. Parce
ah oui,
que...
puis de sexualité.
Ouais, ouais, c'est
puis,
ça. C'est
écoute,
pas
on
maths,
brûle
mais
des
de
livres.
Science,
on ben, ouais, c'est ça. Fait que... Non, non, puis c'est ce qui est intéressant.
Ouais,
parce
les
que,
livres interdits.
Oui, c'est ça. Ça peut s'adapter à toute forme d'intégrisme religieux, finalement. Là, mm-hmm. Puis effectivement. Depuis quelques années, quand même.
Mais
la droite religieuse
si...
américaine a beaucoup de pouvoir.
Voilà, puis si c'est l'enseignement que tu as à la maison, puis dans ta communauté, puis par tes parents, puis par tes... c'est comme plus fort que les 25 heures de cours que tu as par semaine. Là,
tout à fait.
Quelle folie.
Ouais, ouais. Fait que ne ratez pas ça. Puis, parce que je sais pas si c'est le genre de film qui va être très longtemps à l'affiche. Là,
non, je pense
pas.
Puis, j'ai pas regardé le nombre d'écrans, mais ça doit être.
Ou assez limité aussi. Là.
Autour de 10, peut-être.
Mais, moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur des dernières semaines, assurément. Il y a également une sortie familiale en fin de semaine, le film Wild Robot de Chris Sanders.
Le robot sauvage et. Notre spécialiste d'animation chez Monciné, Annie Frenette.
Bonjour les gars.
Bonjour Annie.
J'ajouterai un tonnerre d'applaudissements, une foule en délire, une foule du Centre Vidéotron en délire, là, justement, devant...
Je préférais l'ancien forum.
OK, parfait. C'était plus de la O'Keefe, puis non, ça devait être de la Molson, pareil.
Molson, je pense.
Oui, sûrement.
Ben, à Québec, dans le temps du COSI, c'était de la O'Keefe, parce qu'il était propriétaire des Nordiques.
C'est ça, il y avait la guerre des bières, la guerre du hockey, la guerre
bien
des
sûr.
Brasseurs, toute la guerre.
Mais il
n'y
avait
la
pas
guerre
la guerre des films d'animation.
Non, parce qu'il n'y en avait pas bien au Québec.
Mais après, c'est né
c'est
tranquillement.
Oui, voilà. Mais là, n'est pas fait au Québec, Le robot sauvage, qui est l'adaptation d'un livre de Peter Brown, qui raconte l'histoire d'un robot qui va, par inadvertance, s'écraser sur une île sauvage, où il devra apprendre à survivre auprès des animaux, et que grâce à toutes ces technologies, va même réussir à communiquer avec les animaux. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va se retrouver, ce robot-là, où, c'est comme à sexuer un robot, là, c'est une voix féminine ici, mais... Je pense pas que le robot... les robots sont non-genrés.
Les robots sont non-genrés, effectivement, mais dans ce film-là, il devient...
Mère.
Une nounou. Ouais,
parce
mère.
Que... ouais, mais il y a beaucoup d'intelligences artificielles qui ont des voix féminines. Là. Il y avait des études qui parlaient de ça.
Ben,
c'est plus doux, puis toutes ces affaires-là. Là. Mais ouais, c'est que c'est, donc ce robot-là, Rose, va trouver un œuf et va devoir s'en occuper. C'est une noix, une goose, un petit peu empotée qui va éclore de ça et va se lier d'amitié avec un renard pour l'aider à élever ce petit toisillon.
On appelle ça un oison.
Un
le
oison.
Petit de loi, ça m'a titillé.
Ouais.
Alors j'ai fait la recherche et c'est un oison, c'est le petit de loi.
Oisillon, c'est un petit oison en général, puis oison, c'est comme
précisément,
un caneton, serait un bébé canard, ça. Oison. Alors le petit oison, pour l'aider à apprendre à nager, mais surtout apprendre à voler pour qu'il puisse migrer une fois l'hiver venu. Fait que c'est la nouvelle mission, parce que le robot se cherche une mission, ça a besoin d'une mission. Elle a été créée, ce robot-là a été créé pour aider les humains dans leurs tâches. On est dans un futur ici. Mm-hmm. Et fait que là, sa mission, c'est « Ah, je dois aider cet oison-là à apprendre à se nourrir, nager, voler. »
Et là, les critiques sont vraiment dithyrambiques. Pour un genre, pour un film d'animation très commercial. C'est une production DreamWorks, il faut le souligner.
Oui,
Est-ce que c'était à la hauteur?
Absolument. Et on
point.
Lui... Non, absolument. On donne à ce réalisateur-là également un dragon.
Oui.
Mais il avait co-réalisé, c'est ça, Dragon, Lilo et Stitch.
Dans ce cas-ci, il est scénariste et réalisateur. Donc, il maîtrise parfaitement l'histoire. Il nous amène dans ce conte, pas un conte, dans cette histoire d'action. Même si on parle d'amour, de parents et tout ça, c'est vraiment une histoire d'amour parental avec une trame sonore de Chris Bauer qui m'a vraiment, vraiment, vraiment charmée parce qu'il a fait beaucoup de films... le prise de vue réelle, mm-hmm.
Oui, oui,
pour
il a fait...
la musique.
Ben, il a l'air chumé avec Reynaldo Marcus Green, fait qu'il fait les King Richard, son dernier Bob Marley, One Love.
Ouais. Okay.
Mais il a fait la série Bridgerton aussi pour les fans.
Oui. Et là, en animation, il s'y commet. Et je pense que c'est très, très réussi. Moi, j'ai sorti quand j'ai vu le film, en fait, ce qui m'est resté en tête, c'est j'ai fait « Wow, bon scénario », donc l'image,
mm-hmm.
qui vient renforcer le scénario, mais qui est à partir d'un livre, donc... Une bonne histoire, qui était un mm-hmm. best-seller, comme tu as dit tout à l'heure. Best-seller de science-fiction, déjà en partant, on vient toucher une catégorie de gens. L'animation, on touche une autre catégorie. L'action, une autre catégorie. Histoire parentale, là, on vient faire la quadrature du cercle, ou je ne sais pas, mais.
Ouais, tous
c'est
les ingrédients
film.
Sont là.
Tous les ingrédients sont là. Ça sera aimé et re-aimé. Je pense que c'est un film qui va ouais. durer dans le temps. Comme Dragon a fait grand succès.
Ouais.
J'ose me prononcer que ça sera supérieur, sinon égal à Dragon.
Eh bien là, l'affaire, c'est que je ne sais pas s'ils vont créer... Il va en avoir 2, 3 puis 4, là, je ne sais pas...
Mais le livre vient d'une trilogie.
Ah, OK, je pensais qu'il y a une histoire simple.
Donc, il y a un potentiel.
Il y a un potentiel.
OK. Ah, ben c'est intéressant. Mais oui, c'est... Super beau, on l'écoutait entre collègues.
Ben oui, moi, j'ai pas eu la chance, j'étais pas là.
T'étais affairé ailleurs, c'est correct. Puis là, on était tous émotifs à différents niveaux.
Alors qu'il y a des petites larmes là, qui...
Ah oui. Ben la musique travaille bien pour ça. Là, quand t'as la bonne scène, la musique vient juste mettre le tu sais, il y a de l'herbe sèche puis il y a du gaz. Fait qu'il manque juste une étincelle musicale pour que je fasse...
c'est très, très réussi. Il y avait des grandes attentes. Et bon, moi, j'ai un petit parcours à chaque année. Je pense qu'on a déjà discuté ensemble. J'ai la chance d'assister au Festival d'animation d'Annecy. Et cette année, c'était un gros morceau. Il était présenté une seule fois.
Ah, oui.
Les billets se sont envolés. C'était la course folle. J'avais manqué. Mais ceux qui avaient réussi à le voir me disaient « Attention, il y a une bombe qui s'en vient dans le milieu de l'animation et ça va être vraiment, vraiment, vraiment bien reçu. » Alors, je cherche encore les critiques négatives. C'est sûr qu'on a envie de sentir une certaine lenteur parce que la première partie du film, t'es constamment, intrigué, tu suis qu'est-ce qui va se passer. Il y a beaucoup de rencontres.
Oui, parce que le robot découvre son nouvel environnement qui connaissait pas. Là. Il était pas supposé être sur une île, dans le bois de même, avec autant
de
dangers.
J'ai eu une certaine parenthèse dans ma tête en écoutant le film qui était « Est-ce que c'est pas l'île, l'arche de Noé, l'île de Noé, mais 2099? » Il y a comme une espèce de sauvetage de tous les gens animaux de l'île qui doivent être ensemble aussi. À un moment donné, je dis pas toutes les punches de l'histoire.
C'est ça, mais de le travailler ensemble.
De travailler ensemble pour y arriver. Mm-hmm. Toujours avec la trame du parent qui doit aider son oison. Fait que les gens
puis il
n'y
a pas de licorne. Ça pourrait très bien être l'Arche de Noé à ce moment.
Île, eau, animaux.
Oui, mm-hmm. C'est ça.
Mais c'est bien réalisé, c'est bien... j'ai beaucoup aimé les textures. L'animation est quand même de haut niveau. Courez voir ça.
J'ai peur que ce soit le film... Tu sais, les dernières années, c'est très Disney, Pixar, là, c'est le porte-étendard de l'animation, on dirait. Là. Puis j'ai peur que les gens ne se présentent pas pour ce film-là, alors qu'il est excellent. C'est un des très bons. T'sais, alors que Migration, qui est un peu sur la même thématique, d'une certaine façon, en décembre dernier, a eu un certain succès, mais ce film-là est vraiment supérieur. Il y a tout ce qu'il faut pour devenir un classique, je pense, comme disait Annie. Je sais pas s'ils vont... aller jusqu'à faire 3-4 films, si l'histoire est intéressante, puis que c'est toujours money talks aussi, là, je pense que si le public est au rendez-vous, on va
mais
donner la peine.
Mais il y a aussi j'allais pas le sujet, mais la thématique robot, je me rendais compte que depuis le Géant de fer, en 86 ou 96, excusez-moi l'année.
Je pense que c'est
96. Après, il y a eu juste lors de...
Mais Mon ami robot.
Mon ami robot, on a Transformer 1.
La semaine
parce
passée.
Parce que le film d'action qu'on a vu, The Wild Robot... Il y a aussi l'idée de action, robots qui se transforment, amitié, combat. Ça rejoint aussi ces gens-là qui aiment le film plus d'action de Transformers.
Oui, il y a quand même plus d'aventure et d'action que dans Mon ami robot. Là, ça.
Oui, oui, oui. Mais il y a quand même vraiment une espèce de... tangente. Des fois, ouais. On va dire... Ah,
le
ben
robot
là,
est à l'honneur, ou l'intelligence artificielle.
Oui,
ouais,
oui, on est dans les airs de ça.
Ben oui.
Et ben, je mentionnais du côté Disney Pixar, c'est Wall-E, qui a eu un énorme succès à l'époque. Puis ma Big Hero 6 aussi, lui, je ne l'ai pas vu,
c'est
par
vrai,
contre,
oui,
mais je sais que c'est un des autres robots appréciés.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de dialogue? Est-ce que les animaux parlent entre eux?
Oui, parce que le robot va tomber en mode analyse, puis là, va juste laisser la vie passer devant lui en accéléré, et à partir de là, il est capable de communiquer avec tous les animaux. Fait que là, ça parle plus en son d'animaux, il parle... Fait que c'est Lupita Nyong'o qui fait la voix du robot, mais il y a Pedro Pascal, qui est la saveur de la décennie, genre, qui est la voix du renard, très cool personnage. Catherine O'Hara, donc un double film à l'affiche pour elle, avec Betelgeuse, qui fait la maman opossum, et voilà. Fait que,
je pense que même Mark Hamill, qui est
ouais, il fait le gros ours.
Fait le gros ours, c'est ça. Que...
Plus secondaire, mais oui, une coupe de noms comme ça. Mais le renard, quel beau personnage aussi, parce qu'au début, tu comprends qu'il veut juste profiter. C'est un renard. Mm-hmm. C'est très le corbeau et le fromage. Le corbeau, le renard et le corbeau.
Le renard et le corbeau.
Ouais, le renard et le fromage. Mais en tout cas, il y a un enjeu de fromage. Mais c'est le même genre de renard très malin qui veut arriver à ses fins, mais que lui aussi va tomber dans le piège de genre, ah, c'est vrai qu'il est adorable, puis qu'il aussi veut se servir du robot pour l'aider. Puis... Parce que là, ce qui est bien aussi, c'est que le film a une certaine audace, ben, probablement le livre aussi, de montrer la notion de prédateur et de proie. À la base, les animaux sont pas tous des amis, la forêt des amis des animaux, là, tu sais, c'est comme, ils se mangent du plus grand au plus petit, tu sais, puis tout le monde craint l'ours, ils craignent le renard, il veut manger l'œuf, les oiseaux mangent les crabes, tu sais.
Tout le monde est prédateur et proie
à
un moment donné dans l'échelle.
Exactement, d'où le côté où à un moment donné, ils vont devoir s'unir pour une plus grande menace, mais... C'est quand même bien montré. Il n'y a pas d'évitement au niveau de la notion pédagogique du film. Là. On assume ça. C'est pas un film qui est cruel, mais ça fait partie de la vie. On l'apprend que les animaux mangent d'autres animaux. Puis pour la plupart des humains, on mange des animaux. Fait qu'on ne mange pas du renard, mais tu vois.
Non, mais on en fait des manteaux.
Ouais, c'est ça. Ben là, ça s'est calmé. Là, c'est
ça
sûr
s'est calmé.
Depuis 400 ans, ça s'est plus calme.
Ouais. Probablement. Mais en même temps, c'est un film qui nous amène... moi, ça m'a porté... Hier, je réfléchissais après avoir écouté le film sur, justement, l'intelligence artificielle avec émotion. Parce qu'il devient à ressentir, à mener le robot.
C'est ça, l'affaire.
Puis là, tu te dis, ah oui, on est peut-être rendu là beaucoup plus tôt qu'on le pense.
Fait qu'elle va surpasser ses programmes pour se faire ses propres objectifs puis avoir une forme...
Et après... Se reprogrammer pour la bienveillance. Programmer pour la bienveillance, tu sais.
Avant de prendre contrôle de l'humanité et tous nous tuer.
Ben, tu vois, je pense
que...
C'est
le proie et prédateur.
Rose, elle défendrait...
Oui,
elle défendrait les animaux, en tout cas. Je sais pas s'il y a pas d'humains dans le film. Hein. Il y a juste des robots puis des animaux.
Fait que ce serait l'Arnold de Terminator 2.
Ouais, exactement. C'est
exact.
Ça. On conseille à partir de quel âge?
Moi, vu qu'il y a un sujet, il y a une thématique abordée, mère, famille, enfant, l'oison qui quitte le nid, en bas de 5 ans, j'irai avec précaution.
Puis, il y a la bonne durée pour tout ce qui est présenté dans le film, mais il est comme 1h45 aussi. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas mon premier film au cinéma à 4 ans et demi. Là. Ils ont peut-être trouvé ça long et peut-être même un peu épeurant par moment, là, quand ça brasse un peu des animaux la nuit, là, mettons, et tout. Là. Fait que
j'ai 5 ans.
Tu sais, c'est familial.
Moi, je peux aller sur 6 ans, peut-être. 6 ans, plus.
Là. Mais chaque parent connaît bien son enfant et est capable d'en discuter avec lui après le film et avant le film. Donc, mais c'est ça, à cause de la thématique, là, parents,
on n'est pas
maman.
Dans qu'attaque le brave Beluga. Là.
Non, c'est ça. Lui, il était vraiment 1h15, mon premier film au cinéma, là, tu sais, tout. Là.
Mais allez voir ça. Puis je pense que vous allez même le revoir.
Mm-hmm. Ouais, ben puis l'occasion va être bonne, parce que là, si on parle de cinéma, il y a genre de Hit Pig, je sais même pas s'il y a une VF. En termes d'animation, là, il y a ça peut-être début novembre, sinon ça va à Moana le 27 novembre. Là, fait que
dans les gros.
Septembre-octobre, c'est le film d'animation à voir. Ça ou Transformers, si vous êtes passionné du robot, mais je pense que Robot Sauvage est bien meilleur que le film de Transformers, à mon avis personnel.
Je seconde.
Eh bien, merci Annie pour cette belle conversation.
Toujours un plaisir.
Laisse-moi te parler des autres sorties de la semaine. Le film québécois Le Dernier Repas de Maryse Legagneur, qui se déroule principalement à Montréal. On est dans un hôpital où un Haïtien vieillissant qui est atteint d'un cancer à l'estomac va demander à sa fille de revenir le voir, mais il est en froid avec elle depuis 20 ans, ils ne se sont pas vus. Puis elle le déteste, sauf que là, un peu par pitié, elle va accepter d'y aller et elle va commencer à cuisiner des plats traditionnels haïtiens que sa tante l'aide à faire. Et un peu en échange de ça, lui va lui conter sa vie difficile avant qu'il arrive au Québec, quand il était à Port-au-Prince dans sa jeunesse, puis qu'il a été brutalement arrêté puis incarcéré sans procès à Fort Dimanche, qui était vraiment un endroit de torture où puis on laissait les Haïtiens mourir. Fait que tout ça était dans les époques de Baby Doc Duvalier. D'ailleurs, le film se déroule comme en 2011. Fait que c'est le moment où Baby Doc était comme revenu d'exil et tout. Là. Fait que c'est pour ça que ça fait renourrir tout ça. Fait que tu sais, il y a une grosse relation avec la nourriture dans ce film-là et les relations père-fille. Tu vois qu'il y a des aliments qui est comme « Non, ça, je peux pas. » L'espèce de couscous de base, là, qui dit comme ça, je suis incapable de manger ça parce que c'était la seule chose qui nous servait en prison. Tu sais. Ouais. Fait que là, on comprend que lui qui était bien cool quand il était jeune, ben ça, ça l'a un peu brisé. Puis c'est pour ça qu'arrivé ici, oui, il a fondé une famille, mais
il y a des traumatismes.
Ça. Là,
raison.
C'était pas la période, ça veut dire que tu dois être dans les années 90 quand il est arrivé. Aller en psychologie pour régler ses problèmes, c'était pas trop à mode, mettons. Non. On n'en parlait pas tant que ça. Là. Mm. Fait que un film très humain, très touchant. C'est vraiment bien fait. Il y a quand même un côté culinaire intéressant. C'est sûr que c'est pas la passion de Dodin Bouffant non plus. Là. Mais moi qui en mange pas de viande, quand je les vois quand même cuisiner le griot et ces affaires-là, je suis comme « Ah, ça a l'air quand même extrêmement bon tout ça. » Puis, qu'est-ce que j'avais une autre note sur le film, ça m'échappe. C'est juste, il y a comme une... Tu sais, autant, là, on parlait de Lee, oui. Puis que t'as fait la comparaison avec des films de la Deuxième Guerre mondiale de la dernière année. Bien, on dirait qu'il y a une espèce de recrudescence comme ça de films sur le combat à Haïti, les immigrations des Haïtiens, comment ça se passe, soit quand ils quittent leur pays, soit quand ils arrivent au Québec, quand ils se retrouvent à Canaval, par exemple, qui parlait de quand t'es dans le Nord, puis que là, t'es moins au centre-ville, puis un peu plus de racisme et tout. Fait que t'as cette difficulté-là. Fait que d'après moi, ça aussi, ça témoigne probablement au niveau du financement, tout simplement, chez la SODEC puis Téléfilm Canada, que là, on a des gens qui sont arrivés de première ou deuxième génération d'immigrants qui ont étudié ici, qui font du cinéma, ouais. Qui déposent des scénarios qui racontent leur histoire puis l'histoire de leur famille et tout. Fait que c'est vraiment cool de voir ce changement-là. Puis chacun des films a un angle propre à lui, ouais, comme les films de Deuxième Guerre, finalement. Fait que c'est ça pour Le Dernier Repas. Il y a deux films canadiens aussi. On met toujours les films québécois à part, mais il y a deux films canadiens. Die Alone ou Mémoire fracturée de Lowell Dean, qui est un... On est dans un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Puis on va suivre un jeune amnésique qui cherche à retrouver sa petite amie qui est disparue et va obtenir l'aide d'une femme un peu excentrique et un peu loner qui va comme lui rappeler comment vivre dans ce monde-là, lui étant amnésique à la suite de son accident. C'est avec, entre autres, Carrie Ann Moss, qui est comme des vedettes canadiennes, dans le fond, qui s'est illustrée aux États-Unis. Et ce qui est quand même un peu drôle, parce que le film, je le décrirais comme un genre de Memento dans un monde de zombies, et que c'est elle qui était dans Memento avec, j'oublie son nom, l'autre comédien, mais de Christopher Nolan. Il y a Frank Grillo aussi qui a un rôle là, dans le film, quand même un acteur d'action reconnu, fait que c'est un genre de gros nom qu'ils sont allés chercher. C'est donc un film un peu de zombies et de jeu de qui dit vrai, puis qu'est-ce que j'arrive à me souvenir, là. Je trouve que dans cette optique-là, on a quand même souvent, on dirait, des films de ce genre-là au Québec, un peu slasher gore. Lui, il n'est pas comédie. Il est vraiment dramatique, suspense. Les maquillages sont super bien faits. Ça a été tourné en Saskatchewan. Je trouvais que des fois, là, c'est plate à dire, mais des fois, les films canadiens ont une facture très unique. Je trouve que cela dépassait le lot. Je le trouvais plus intéressant là-dedans. Après ça, est-ce que ça vous intéresse ce genre de suspense-là? C'est sûr que c'est pas non plus un film de genre il y a plein de zombies puis il faut toutes les gonner. Là. C'est plus vraiment lui avec son amnésie qui cherche sa blonde puis qu'il sait pas trop à qui il peut faire confiance puis qui dit vrai dans tout ce monde-là. T'sais, ce qui est un peu le côté 28 jours plus tard, là, quand Cillian Murphy se réveille, puis genre, qu'est-ce qui se passe ici, puis blablabla, mais il y a un peu cette affaire-là dans Die Alone, qui est un film aussi assez bref là, de mémoire, genre 1h30, là, peut-être même quelques minutes de moins. L'autre film canadien, My Old Ass, Mon Vieux Cul, de Megan Park, le pire titre, je pensais jamais dire ça au balado, tu sais. Et selon, on l'a pas vu par contre, on va essayer peut-être de le voir cette semaine, peut-être d'en rediscuter, parce que les premiers échos sont vraiment, quand même très bons sur le film. Et c'est un coming of age, et moi ça me parle toujours ça. Le jour de ses 18 ans, Elliot, une jeune femme ouvertement homosexuelle, part camper avec ses deux meilleurs amis et font une espèce de gros trip de drogue, de champignons magiques. Ce qui va faire que ça va provoquer sa rencontre avec sa version d'elle-même à 39 ans, jouée par Aubrey Plaza. Elle aussi, deux films à l'affiche cette semaine, qui est dans Megalopolis. Puis cette version plus tard d'elle va lui conseiller fortement de se rapprocher un peu plus de ses frères puis de ses parents avant qu'elle étudie à Toronto, puis surtout d'éviter tous les garçons prénommés Chad. Ce qui est quand même un peu drôle parce que dans la blague des Karen, qui sont comme les madames folles qui pètent des coches pour rien, ben Chad, c'est les douches bro, pas mal niaiseux aussi. Là. Fait que...
L'équivalent de nos Kevin un peu, je pense.
Peut-être, écoute, je pourrais pas me mettre du bon ado, là, je sais pas. Non, je pense pas, nous, c'est qu'il y a tellement des Kevin, je sais pas. Peut-être moins dense pour pouvoir le dire. Fait que c'est ça, un film sur le passage à l'âge adulte avec un peu de fantaisie. C'est Maisie Stella, je pense que c'est son premier rôle pas mal, mais il y a Maddie Ziegler qui joue une de ses amies, qui est aussi elle, une vedette canadienne montante, qui était entre autres dans Fitting In il y a quelques mois. Fait que ben, si vous êtes curieux, My Old Ass ou Mon Vieux Cul à dire. Les autres, j'avais parlé la semaine passée de Hauteur d'enfant qui avait pris l'affiche à Montréal, qui s'étend à Québec et dans d'autres marchés. Écoute, ça fait quand même un bon épisode là. On l'a fragmenté avec Annie et tout là, mais on doit avoir pogné l'heure, fait que je pense que ça va être suffisant. La semaine prochaine, le 4 octobre, un peu moins de sorties, mais quand même des grosses sorties, Joker Folie à 2 de Todd Phillips, qui, comme tous les musicals, dit qu'il n'est pas un musical. Et on dit non, non, on n'est pas un musical, mais quand il y a des moments émotifs, on les chante.
C'est ça. Il y a quand même 12-13 chansons. Là, fait
oui,
que,
mais c'est pas ça. Un musical.
Non, non, pas du tout.
C'est ça. Fait que qu'il l'assume ou pas, on a bien hâte de découvrir.
Et même que Lady Gaga devait moins bien chanter.
Oui, puis que finalement, elle chantait tellement bien qu'on va dire, ah, ben, on va garder tes takes. Il voulait la doubler, je pense. Là. Il voulait,
ah, ça, j'avais pas.
Là, c'est que je pense qu'il voulait refaire sa voix post-synchro comme par-dessus, mais en fait, hey, finalement, tu chantes bien a cappella, puis comme, mais pourquoi tu t'allais la chercher, là? <t'sais>, <t'sais>... Bref, on fouillera pour toutes les fun facts autour du film. Et au Québec, La Petite et le Vieux de Patrice Sauvé, qui était aussi le film présenté au FCVQ, le film d'ouverture, et parce qu'entre autres, il a été tourné dans la ville de Québec par nos bons amis de chez Parallax, qui avait fait Farador, qui avait produit Farador il y a 2 ans. Bref, ça et sûrement 8 autres sorties, peut-être, qu'on découvrira au fil de la semaine. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On est en 2024, on est sur Facebook, sur Instagram, sous le nom de Magazine Monciné. Procurez-vous gratuitement, d'ailleurs, le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province avec Gildor Roy de La Petite et le Vieux, en couverture. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et puis si jamais vous avez 120 millions à investir, peut-être choisir un autre domaine que le cinéma.